Bonjour et bienvenue sur le cercle de lecture de Confluence. Je vous rappelle que Confluence est une association qui a été créée en 1990 par Maurice Petit et qu'elle consacre ses activités sur la création, l'organisation, la diffusion de manifestations littéraires. Un des temps forts de la vie de Confluence, c'est le festival littéraire Lettres d'automne. L'invité principal de la 25e édition des Lettres d'automne sera cette année Agnès de Sarthe. C'est autour d'elle et de ses invités que se dérouleront donc ces Lettres d'automne durant 2 semaines en novembre prochain. Confluence a inauguré un nouveau local au 41 rue de la Comédie. Il s'appelle la Petite Comédie. C'est un nouveau lieu culturel à Montauban qui vous propose des activités multiples. Et vous pouvez trouver le programme sur place ou sur Internet. Le cercle de lecture de Confluence, qui nous rassemble aujourd'hui, rassemble des lecteurs qui échangent autour d'un livre. Le livre débattu lors du récent cercle de lecture, qui se réunit désormais à la Petite Comédie, est un classique, une nouvelle de Balzac, qui est intitulée « Le chef-d'œuvre inconnu ». Pour en parler aujourd'hui, sont rassemblés dans le studio de CFM, Micheline. Bonjour Micheline.
Bonjour.
Jean.
Bonjour.
Bonjour. Il n'est pas question de retracer ici une complète biographie de Balzac. Je signale que dans l'édition de poche qui est proposée par Folio, du chef-d'œuvre inconnu et autres nouvelles, Adrien Goetz, outre une préface fort intéressante, propose une chronologie des préoccupations artistiques de l'écrivain. J'en extrais quelques dates suivantes. 1789, naissance de Balzac à Tours. 1920-1925, ce sont les premiers essais littéraires de Balzac. En 1927, dans la maison qu'il occupe au 17 rue de l'actuelle rue Visconti, s'installent des peintres, Paul Delaroche et Eugène Lamy, qui n'ont pas laissé un souvenir impérissable, mais enfin, il vit donc avec des peintres. C'est là aussi où Delacroix vivra plus tard. En 1829, après d'infructueuses années où Balzac s'est voulu éditeur, puis imprimeur, typographe, il retourne à la littérature avec les Chouans. Et c'est en 31 que paraît le chef-d'œuvre inconnu dans une revue qui s'appelle L'Artiste. La même année paraîtra La peau de chagrin, qui avec 12 autres récits, dont Les Lessires de longue vie et Le chef-d'œuvre inconnu, forment les 3 volumes des romans et contes philosophiques. Alors en 34, ensuite, vous aurez le Père Goriot, en 36, Le Lys dans la vallée, en 37, sera la 3e version du chef-d'œuvre inconnu, en 47, parution du cousin Ponce, qui est sans doute un roman important aussi sur l'amour de l'art. Et en 1850, Mort de Balzac. Alors, le chef-d'œuvre inconnu, c'est une nouvelle d'une 30aine de pages. Nous sommes en décembre 1642, il fait froid. Après avoir hésité, un jeune homme, dont le vêtement est de très mince apparence, rentre dans une maison qu'a des grains augustins, où vit le peintre François Forbus. Sur le palier, il hésite à nouveau. Un vieillard que l'on croirait sorti d'une toile de Rembrandt, dans lequel le jeune homme devine un protecteur ou l'ami du peintre, arrive, frappe. Un homme de 40aine d'années lui ouvre. « Bonjour maître », lui dit le vieillard. Forbus s'incline et, croyant le jeune homme amené par le vieillard, le laisse entrer. Voilà la nouvelle lancée. Voilà le lecteur accroché. Que va-t-il se passer ensuite? Jean, vous voulez peut-être nous dire un peu ce que...
Alors, ce que je peux dire, c'est que pour moi, d'abord, ce chef-d'œuvre inconnu, c'est le type même du roman d'apprentissage. Et Balzac a écrit de très nombreux romans d'apprentissage. Très souvent, un jeune homme arrive de sa province et découvre la capitale, découvre la vraie vie et va petit à petit se construire sa personnalité. C'est bien ce qui se passe ici. Le jeune Poussin, puisque c'est le peintre Poussin dans sa jeunesse, qui n'est pas encore le du tout célèbre, symboliquement monte un escalier. Et va rencontrer celui qu'il considère comme un maître. Et à partir de là, il va être confronté à ce que c'est que pour des artistes confirmés, la vraie peinture, et il va y avoir toute une série de donc réflexions sur ce que c'est que l'art, avec un A majuscule. Alors vous avez dit que Balzac, c'est... souvent intéressé aux œuvres d'art et aux artistes, c'est vrai, on rencontre très souvent dans son œuvre des histoires de peintres, de musiciens, et avec tous les problèmes que pose la réalisation de leur art, surtout dans une période qui est très fructueuse en France. Hein, c'est la période romantique, on peut dire, hein, les années 1830-1840. Il y a tout un désir de renouvellement, bon, pas seulement en France, mais dans toute l'Europe, mais en France aussi.
Renouvellement, interrogation aussi sur interrogation
voilà.
sur l'art.
Renouvellement, interrogation, oui. remise en cause, et Balzac est en plein dans ce mouvement aussi.
Alors, il faudrait, c'est tout de même une nouvelle, c'est une histoire qui est racontée. Il ne faut pas croire simplement que vous allez avoir des digressions et des discussions sur l'art. Il y a aussi une action.
Hein. Alors, oui, il y a une action. La nouvelle est très construite. Hein. Il y a deux parties. Ces deux parties portent en titre un prénom féminin. La première, Gillette, et la deuxième, Lescaut. Je recherche son prénom. Elle s'appelle Catherine Lescaut. Voilà. Oui. Alors la première, c'est un personnage réel. C'est l'amie du jeune Poussin, avec là on a une évocation un peu de ce que peut être la vie de bohème. Ils vivent tous les deux leur amour sous les toits, dans une espèce de pauvreté, mais en même temps dans le bonheur de leur amour. Mais très tôt, pour le jeune Poussin, va se poser la question de choisir entre son amour et l'art, la peinture. Et il semblerait, d'après ce que dit Balzac, que l'un exclut l'autre, hein. C'est-à-dire que si on choisit la peinture, l'amour réel, l'amour de cette femme réelle n'a plus de place. Oui. Et c'est ce qu'elle va comprendre, elle aussi, cette Gillette. Le deuxième prénom féminin, c'est le prénom de celle qui sert de modèle au personnage central du chef-d'œuvre inconnu, qui est ce peintre très extraordinaire, très mystérieux, qui s'appelle Fraenhofer. Et donc ce personnage n'apparaît qu'en représentation. Et il n'apparaît pas comme un être de chair et de sang. Voilà ce que
oui,
je peux
alors
dire.
Il va tout de même. On peut dire tout de même que sans dévoiler la fin, si vous voulez, il va se passer tout de même. Il va y avoir entre ces personnes, il va y avoir des conflits, il va y avoir aussi des tensions et. Il va se passer les choses. On peut dire qu'il y a vraiment, il y a une vraie chute à la fin de la nouvelle.
Oui, alors il y a une sorte de coup de théâtre, quelque voilà. chose d'inattendu, et la fin enfin tombe très brutalement, et une fois qu'on a lu la fin, on a envie de tout reprendre pour comprendre voilà. Ce qui a bien pu se passer. Donc on ne dévoilera pas la fin.
Non, on ne dévoilera pas la fin. Elle incite à le relire. Alors voilà. Il faut dire que c'est une nouvelle d'une trentaine de pages. Qui se lit assez facilement, mais encore, il y a tellement de réflexions qui sont importantes, je crois, et profondes, que la lecture ne peut pas être une lecture très. Faut pas lire trop vite, quoi. Il faut s'arrêter souvent.
Oui,
je crois.
Mais en même temps, il me semble que lire ce que vous appelez donc une nouvelle permet de. Comment dire, nuancer les clichés qu'on peut avoir par rapport à Balzac, hein. C'est-à-dire Balzac, des très longues descriptions, des romans assez importants, des actions très compliquées, etc. Il faut se méfier des clichés, de toute façon, à propos des grands auteurs, parce qu'ils ne ressemblent jamais à la caricature qu'on peut en faire. Et là, il me semble que le chef-d'œuvre inconnu, justement, permet de montrer la diversité de la production de Balzac.
Oui. Avec aussi, tout de même, on retrouve son art absolument formidable de faire des portraits. Parce que dès les premières pages, là, il y a le portrait de ce vieux monsieur qui monte dans l'escalier et qui est absolument étonnant.
Peut-être Micheline.
Oui, voilà, c'est une façon de rentrer dans le sujet. J'ai envie de lire.
Oui, je vous en prie. Hein
alors. Excusez-moi, je cherche ma page, je l'ai perdue.
Ça va, il n'y en a qu'une trentaine, donc... Ça
oui, oui, non, long. Mais... Idiot. Voilà. Donc, c'est la rencontre de Poussin qui, timidement, arrive devant le domicile de Borbus et il se trouve face à face avec un personnage. Un vieillard vint à monter l'escalier. À la bizarrerie de son costume, à la magnificence de son rabat de dentelle, à la prépondérance sécurité de sa démarche, Le jeune homme devina dans ce personnage ou le protecteur ou l'ami du peintre. Il se recula sur le palier pour lui faire place et l'examina curieusement, espérant trouver en lui la bonne nature d'un artiste ou le caractère serviable des gens qui aiment les arts. Mais il y avait quelque chose de diabolique dans cette figure, et surtout ce je ne sais quoi qui affriande les artistes. Imaginez un front chauve, bombé, proéminent, retombant en saillie sur un petit nez écrasé, retroussé du bout comme celui de Rabelais ou de Socrate. Une bouche rieuse et ridée, un menton court, fièrement relevé, garni d'une barbe grise taillée en pointe, des yeux verts de mer, ternis en apparence par l'âge, mais qui, par le contraste du blanc nacré dans lequel flottait la prunelle, devait parfois jeter des regards magnétiques au fort de la colère ou de l'enthousiasme. Le visage était d'ailleurs singulièrement flétri par les fatigues de l'âge et plus encore par ses pensées qui creusent également l'âme et le corps. Les yeux n'avaient plus de cils et à peine voyait-on quelques traces de sourcils au-dessus de leurs arcades saillantes. Mettez cette tête sur un corps fluet et débile, entourez-la d'une dentelle étincelante de blancheur et travaillez comme une truelle à poisson, jetez sur le pourpoint noir du vieillard une lourde chaîne d'or et vous aurez une image imparfaite de personnage auquel le jour faible de l'escalier prêtait encore une couleur fantastique. Vous eussiez dit une toile de Rembrandt marchant silencieusement et sans cadre dans la noire atmosphère que s'est approprié ce grand peintre. Et là, ça me renvoie aussi pourquoi on a choisi ce livre. Si vous vous souvenez, c'est devant l'œuvre de Kantorowicz, lorsqu'il a fait son exposition invitée par Hubert Haddad à La Femme Renard. Et Kantorowicz a pris aussi, dans son œuvre, puisqu'il travaille par série, il a pris La Comédie humaine. Et quand je lis ça, j'ai aussi l'impression de rentrer dans cette profondeur de la peinture de Kantorowicz. Voilà, et puis alors après, bien sûr, ce qui est passionnant dans ce livre, c'est toutes les problématiques plastiques contemporaines sont posées. Voilà, donc est-ce que le dessin est prééminent sur la peinture? Est-ce que le peintre est un coloriste? Est-ce que le travail de la ligne, de la couleur, de la... Donc là, il y a des descriptions et des interrogations qui sont passionnantes.
Oui.
Et puis la mission de l'art.
Oui, c'est ça. Alors, sur la mission de l'art, justement, Adrien Goetz, dans sa préface, dit que Balzac aurait été le premier, dit-il, à poser la question suivante, à dire que la mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer.
Voilà. Hein?
C'est d'ailleurs une phrase qu'on trouve dans la,
c'est une phrase qu'on trouve dans la nouvelle.
Voilà.
Dans la nouvelle,
hein?
Oui.
Alors, c'est un grand débat, parce que la mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer.
Oui. C'est tout de même. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, Balzac est présenté comme l'archétype de l'écrivain réaliste.
Voilà.
Dise ça.
Oui.
Parce que même quand il fait des descriptions réalistes, ce n'est pas le réel. Hein, c'est le réel qu'il transforme, qu'il manipule.
Mais je crois qu'on vient de le voir avec la description du personnage.
Et ce qui m'a intéressé dans ce que tu as lu, c'est aussi le fait qu'il associe le lecteur à la construction du tableau, de l'image, hein, quand il dit « mettez sur cette tête, mettez cette tête sur un corps, etc. » Donc le lecteur est associé à la création. Et à propos de Rembrandt, moi j'aimerais lire le passage qui suit, oui, dans lequel justement Balzac, et il le fait très souvent ça, essaie avec des mots de faire l'équivalent d'une peinture. Par rapport donc à Rembrandt, qu'il a l'air d'apprécier particulièrement, qui est le maître du clair-obscur, hein. Il fait ensuite une description de l'atelier de Porbus en insistant sur les taches de lumière qui ressortent sur l'obscurité. Hein. Il dit ceci, un vitrage ouvert dans la voûte éclairait l'atelier de maître Porbus, concentré sur une toile accrochée au chevalet et qui n'était pas encore touchée que de 3 ou 4 traits blancs. Le jour n'atteignait pas jusqu'aux noires profondeurs des angles de cette vaste pièce, mais quelques reflets égarés allumaient dans cette ombre rousse une paillette argentée au ventre d'une cuirasse de reîtres suspendue à la muraille, rayée d'un brusque sillon de lumière la corniche sculptée et cirée d'un antique dressoir chargé de vaisselle curieuse, ou piquée de points éclatants la trame grenue de quelques vieux rideaux de brocart d'or aux grands plis cassés, jetés là comme modèle. Donc, par cette technique-là, il essaie, hein, je répète, hein, il essaie avec des mots, donc, de créer l'équivalent de la technique de Rembrandt, qui est donc celle du clair-obscur. Et Balzac, on sent qu'il a très souvent, justement, essayé de, dans son écriture, de faire comme de la peinture.
Vous êtes sur CFM. Vous écoutez une émission qui vous est proposée par le Cercle de lecture de Confluence. Aujourd'hui, nous échangeons autour d'un livre de Balzac qui s'appelle Le chef-d'œuvre inconnu. Et nous sommes, je crois, tous frappés par la modernité du texte et des propos que Balzac a écrits sur l'art. Hein? Micheline.
Oui, alors j'ai envie aussi de reprendre un passage où, puisque Frenhofer vient voir un travail, une peinture de Porbus, et donc c'est terrible en fait l'analyse qu'il va le faire sur ce tableau. Donc juste un petit fragment. Ta figure, j'ai pas envie de dire ce que c'est. Je préfère laisser parce qu'en fait c'est tellement universel ce qui est dit. Ta figure n'est ni parfaitement dessinée ni parfaitement peinte et porte partout les traces de cette malheureuse indécision. Si tu ne te sentais pas assez fort pour fondre ensemble au feu de ton génie les deux manières rivales, il fallait opter franchement entre l'une ou l'autre afin d'obtenir l'unité qui simule une des conditions de la vie. Tu n'es vrai que dans les milieux, tes contours sont faux, ne s'enveloppent pas et ne promettent rien par derrière. Il y a de la vérité ici, dit le vieillard en montrant la poitrine de la sainte, etc., etc. Et ça, ça nous renvoie, bon, je pense que Balzac avait lu les écrits de Delacroix, ça se passe à peu près au même moment. Oui. Et vous savez que Delacroix et Ingres, Ingres disait c'est le contour, c'est le dessin, et Delacroix disait c'est dessiné en peignant ou peignant.
Oui.
Voilà. Voilà. Donc c'est toujours cet éternel débat, finalement. Oui. Entre la ligne.
D'ailleurs, Adrien Goetz, là, à cette occasion, cite un extrait du journal de Delacroix, qui parle du primat de la peinture sur le dessin, et dit l'idée que la nouveauté est dans l'esprit qui crée, et non pas dans la nature qui est peinte. Hein?
Voilà. Alors, il y a
ça,
aussi,
cet extrait du journal de Delacroix, et on peut voir que Balzac est en, et, enfin,
parce
est,
qu'on est en, plein est en parfaite dans harmonie débat, avec. On est en plein dans ce débat-là, voilà. Hein, c'est-à-dire que Delacroix, c'est la valeur montante, hein, à l'époque de Balzac. Et Delacroix, c'est avant tout la couleur.
Oui.
Et le geste.
Et le geste, voilà.
Et le geste.
Hein. Et il y a une formule qui peut-être résume un peu les idées de Balzac à ce sujet. Hein. Il dit « La couleur, le sentiment et le dessin sont les trois parties essentielles de l'art. » Couleur, sentiment, dessin. Et sentiment au milieu, hein, c'est-à-dire. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par sentiment? C'est peut-être très discutable. Hein, enfin, ça ouvre des débats immenses. Mais le personnage qui s'appelle donc Frenhofer, je ne sais pas si on a bien situé toutes les catégories de peintres. Donc, il y a Poussin, le débutant,
qui est là,
Porbus, qui est le peintre arrivé, le peintre officiel, on peut dire, puisque il a peint un portrait d'Henri IV, Marie de Médicis s'intéresse à lui, etc. Et puis, il y a, disons, le génie inclassable, Frenhofer. Et il y en a même un autre, hein, qui était le maître de Frenhofer, qui est un peintre qui a existé réellement, qui s'appelle Mabuse. Donc il y a aussi le thème dans ce livre, et ça c'est intéressant aussi, le thème de la transmission, c'est-à-dire quelqu'un possède quelque chose et il va le transmettre. Et le jeune peintre, donc Poussin, est dans cette situation. Hein. Il attend qu'on lui transmette en quelque sorte les secrets de la création.
Oui. Ce qui est assez caractéristique des romans d'apprentissage dont vous parliez au départ.
Oui.
Avec la transmission, oui.
Et donc... Il y a aussi un autre, le livre ouvre à des tas de discussions.
Et tout
sans
ça,
fin.
Et tout ça en 30 pages.
Oui. C'est vrai que parce que, on peut prendre les choses dans un sens ou les prendre dans l'autre. Par exemple, Frenhofer, est-ce que c'est un personnage, qui réussit parfaitement et maîtrise parfaitement son art, ou est-ce que c'est un personnage qui finalement rate les choses? La question est posée et peut être posée jusqu'à la fin. Et je pense que Balzac, d'une certaine façon aussi, se pose la même question. Parce que Frenhofer, c'est un personnage qui doute sans arrêt. Et quand il doute ou quand il réfléchit trop, d'une certaine manière, ça nuit à sa création. Par contre, il y a une scène très très intéressante dans laquelle, celle dont tu as parlé, Micheline, dans laquelle il améliore, on peut dire, enfin à sa façon, un tableau qui est déjà peint. À ce moment-là, il le fait avec une très grande rapidité. On a l'impression que il ne réfléchit pas aux touches qu'il va rajouter. Il y a quelque chose là de spontané, rapide, et apparemment le résultat est convaincant. Et par contre, quand il va se mettre à trop réfléchir, à ce moment-là, ça va détruire peut-être l'acte créateur.
Oui, vas-y.
Et ceci peut s'appliquer à la littérature aussi.
Voilà, et ça s'applique à la littérature.
Mais à un moment, je crois que Balzac, en parlant de Fraunhofer, dit « il rêve au lieu de peindre ».
Voilà.
Et ça annonce la fin, en fait.
Oui. Oui, c'est-à-dire que la pensée excessive, excessivement développée, peut avoir un effet destructeur, finalement. Bon, on ne va pas peut-être en dire davantage.
Dans le domaine de l'art.
Dans le domaine de l'art.
C'est pas universel.
Alors, dans le domaine de la création artistique, d'une manière générale, je pense que oui.
Oui.
Parce que.
Mais dans le domaine de la réflexion, peut-être philosophique et autres.
Mais, dans le domaine de la réflexion philosophique, parce que l'absolu ne s'atteint jamais. Et tous ceux qui essaient d'obtenir, enfin, d'arriver à l'absolu, si vous voulez, ça se rendent compte qu'ils échouent finalement. Oui. Donc toute création ou tout essai humain finalement reste imparfait, reste incomplet. Mais peut-être c'est ça qui fait l'intérêt aussi d'une œuvre d'art.
Ben oui, parce qu'il faut qu'on se laisse surprendre.
Voilà, oui.
Et on en revient à Léonard de Vinci qui disait à ses élèves, mais quand le projet dépasse ce qui a été conçu, projeté, c'est que l'œuvre est réussie, justement. Voilà. Et c'est là qu'il y a, à mon avis, création.
Oui, oui, c'est pas simplement le fruit d'une réflexion.
Ben
voilà,
c'est pas
autre chose.
Ou alors
quand le spectateur trouve peut-être plus que ce que le peintre a voulu mettre, l'artiste a voulu mettre, ou en tout cas trouve autre chose, etc. C'est-à-dire une œuvre ouverte, c'est sans doute une œuvre qui reste imparfaite. Il y a un autre sujet alors, moi qui m'a aussi paru intéressant, c'est la relation donc du jeune Poussin avec la jeune femme avec laquelle il vit, et donc la relation entre l'amour et l'art. Hein? Et la conclusion est assez pessimiste, parce que finalement, le jeune Poussin choisit la création artistique, choisit la peinture, et la malheureuse Gillette se rend compte que finalement, quand il regarde un tableau, il a un regard plus amoureux que quand il la regarde, elle. Et ça la désole.
Ouais.
Et c'est ce qui va finalement les séparer.
Alors c'est un thème aussi qui, je pense à ça parce que ça a été repris récemment dans un livre de Claude Pujade-Renaud qui s'appelle « Les femmes du braconnier » et dans lequel elle évoque la relation entre Sylvia Plath, cette jeune poétesse américaine qui arrive un jour à Cambridge dans les années 1930 avec un certain Ted Hughes qui est un poète lui déjà connu. Et après la passion, si vous voulez, la grande question c'est de savoir si deux artistes peuvent vraiment vivre ensemble. Est-ce que deux artistes peuvent vraiment vivre ensemble? Est-ce que je pourrais dire que leur art peut se développer alors qu'il y a est-ce qu'il peut se développer concomitamment en quelque sorte avec tous les deux? Est-ce qu'il y a vraiment une fusion ou pas? Ou est-ce qu'il y a et c'est ce qu'on trouve un tout petit peu là.
Oui.
Alors elle n'est pas artiste elle, mais
elle n'est pas artiste, mais elle est la femme idéale.
Voilà.
Une incarnation de la beauté.
Voilà.
La beauté parfaite. C'est la raison pour laquelle elle va être présentée au diabolique Fraunhofer pour lui servir de dernier modèle, en quelque sorte.
Alors, ce dont on peut se rendre compte, c'est que là, il y a des thèmes dans cette nouvelle, qui encore une fois est une nouvelle de 30 pages, il y a des thèmes qui vont être repris par d'autres écrivains et autres, et même des écrivains contemporains. Donc, ce sont des interrogations qui sont extrêmement modernes, et c'est ce qui fait l'intérêt aussi de cette nouvelle.
Alors, on sait que, par exemple, Cézanne, le peintre Cézanne, adorait ce livre, c'était pratiquement son livre de chevet.
Ah oui.
Et, il se demandait toujours de quel côté il était.
Oui.
Il se voyait plutôt du côté de Fraunhofer, plutôt du côté de celui qui sans arrêt retouche, est insatisfait, trouve que son œuvre est imparfaite, etc.
Ouais, ouais. Et la façon d'ailleurs dont les retouches sont faites sur le tableau, par moment, il y a des descriptions qui sont absolument étonnantes, avec les descriptions techniques même chez Balzac, voilà. Qui montrent que il a non seulement fréquenté, mais il connaît la technique. Il connaît la technique de peinture. Enfin, il a été dans les ateliers. Il a regardé ça très très attentivement.
Alors, il y a une particularité aussi là. D'habitude, normalement, la plupart des romans de Balzac se situent à son époque, hein, oui. C'est à l'époque contemporaine ou à la fin du 18e siècle sous la Révolution, par exemple.
1632.
Et là, on est au 17e siècle.
Alors, 1632, pardon.
Oui. Oui, mais même ça commence par vers la fin de l'année 1612. Mm-hmm. Donc, oui. On est au début du XVIIe siècle, et on peut se demander pourquoi Balzac a préféré situer les choses dans une époque antérieure. Peut-être que ça lui permettait plus de, comment dire, de liberté.
Oui.
Parce que c'est assez rare hein, qu'il raconte des histoires.
C'est très contemporain.
En général, c'est très contemporain.
Oui.
Alors, j'aurais envie de dire, pour dépasser le sujet, que... La lecture de Balzac, c'est très intéressant. Enfin, je recommanderais à un auditeur, s'il nous entend, d'essayer de lire des romans de Balzac. C'est très varié. Tous les sujets sont abordés. Il y a des romans d'aventure, par exemple Les Chouans. Il y a toute une réflexion aussi sur le pouvoir de l'argent, sur la façon dont la société du 19e siècle s'organise, qui est passionnante. Mmh. Et les romans, hein, l'œuvre de Balzac, la comédie humaine, a servi d'ailleurs de point de départ, de réflexion de gens comme Marx ou de penseurs politiques.
Oui. Oui. Est-ce qu'il y a alors maintenant, puisqu'on est sur ce sujet, est-ce qu'il y a justement pour des gens qui ne connaîtraient pas encore Balzac, est-ce qu'il y a un ou deux romans par lesquels vous conseillez de peut-être de commencer?
Alors quand on a rencontré donc Hubert Haddad, oui. Il a dit beaucoup de bien de La Peau de Chagrin,
oui.
Qui est une sorte de roman fantastique. Donc effectivement, on peut lire. J'ai parlé tout à l'heure des Chouans. Moi, oui. Je trouve que c'est un très beau roman avec une aventurière, de l'action pendant donc la révolte de Vendée. C'est tout à fait intéressant. Après, il y a les grands classiques. Pourquoi ne pas lire Mais on le lit, Le Père Goriot. Oui. Mais on le lit quelquefois parce qu'on y est forcé en classe par les professeurs et on trouve que c'est ennuyeux. Alors que,
j'aime
franchement,
beaucoup La Cousine Bête.
Alors, La Cousine Bête, justement, dans La Cousine Bête, il y a aussi un personnage d'artiste, hein, il y a un sculpteur. Il y a ensuite la grande série des Illusions perdues, Splendeur et misère des courtisanes. C'est aussi très très beau.
Donc, lisez Balzac.
Oui.
Micheline.
Non, j'ai envie de revenir, à la peinture dont il est question. Et j'y trouve effectivement, toujours pareil, des problématiques qui sont extrêmement des questionnements sur le sens de l'art, la mission de l'art. Et voilà, je vais lire un petit extrait. Nous avons à saisir l'esprit, l'âme, la physionomie des choses et des êtres. Les effets, mais ils sont les accidents de la vie et non la vie. Une main, puisque j'ai pris cet exemple, une main ne tient pas seulement au corps, elle exprime et continue une pensée qu'il faut saisir et rendre. Ni le peintre, ni le poète, ni le sculpteur ne doivent séparer l'effet de la cause, qui sont invinciblement l'un dans l'autre. La véritable lutte est là. Beaucoup de peintres triomphent instinctivement sans connaître ce thème de l'art. Vous dessinez une femme, mais vous ne la voyez pas. Ce n'est pas ainsi que l'on parvient à forcer l'arcane de la nature. Votre main reproduit, sans que vous y pensiez, le modèle que vous avez copié chez votre maître. Vous ne descendez pas assez dans l'intimité de la forme. Vous ne la poursuivez pas avec assez d'amour et de persévérance dans ses détours et dans ses fuites. La beauté est une chose sévère et difficile qui ne se laisse point atteindre ainsi. Il faut attendre ses heures, les pieds, la presser, l'enlacer étroitement pour la forcer à se rendre. J'aime beaucoup ce contact, cette relation passionnée. Hein,
oui.
À la peinture.
Alors, ce livre, il faut le dire aussi, a inspiré non seulement des peintres, mais aussi un cinéaste. Donc, le film qui s'intitule La Belle Noiseuse de Rivette est tiré avec une certaine liberté, mais directement donc de ce livre.
Et c'est un film qui fait 4 heures, je crois.
Donc, et c'est un livre,
que,
oui.
Un film qui fait. Oui. Et, donc ça veut dire que c'est une petite nouvelle au petit rêve.
Oui,
tout de même,
mais dans lequel il y a surtout, ce qui est développé, c'est surtout la relation entre le peintre et son modèle.
Oui.
Et la façon dont finalement le peintre considère le modèle et essaie de rendre ce qu'il observe.
Bien, je vous invite donc à lire le chef-d'œuvre inconnu et autres nouvelles de Balzac. Je vous recommande l'édition Folio Classique, encore une fois parce qu'elle a été, elle est présentée, préfacée par Adrien Goetz. Je rappelle que Adrien Goetz s'intéresse beaucoup à Ingres, que c'est lui qui, en 2006, a été commissaire au musée Ingres de Montauban d'une exposition qui s'appelait « De Ingres collage » aussi, dont il y a eu un livre qui est sorti. Mais Adrien Goetz, c'est aussi un romancier qui s'intéresse beaucoup à l'art et qui a des livres. Il a écrit « La Dormeuse de Naples », qui a obtenu le prix des deux Magots et le prix Roger Nimier. Il avait écrit une petite légende dorée qui se passait à notre époque, à Washington. Il a écrit aussi Intrigue à l'anglaise aussi. Alors ça, c'est une histoire qui se passe autour de la célèbre tapisserie de Bayeux. Hein. Et ce sont des livres très agréables à lire, très faciles à lire. Il a un style assez léger, mais ça se lit aussi comme des polars. Hein. Ce sont aussi des polars. Donc, merci Adrien Goetz pour aussi cette préface et encore une fois, cette présentation biographique de Balzac en liaison avec l'art. C'était donc une émission qui vous était proposée par le Cercle de Lecture de Confluence. La prochaine fois, nous débattrons autour de...
Alors, c'est un roman de Patrick Modiano, Dora Bruder.
Alors, pourquoi Patrick Modiano? Parce qu'il vient d'avoir le prix Nobel.
Voilà.
C'est un roman qui n'est pas très épais.
Oui,
mais
qui est très représentatif, il me semble, de l'art de Modiano.
Absolument. Donc, très bon mois de février et on se retrouve au mois de mars autour de Patrick Modiano. Au revoir et merci.